Commençons par un mot de prière. Seigneur, au milieu des bruits de la ville, au milieu des bruits de nos vies, nous voulons faire silence pour un temps et écouter tes enseignements ensemble, tout comme dans les semaines, nous voulons prendre du temps avec ta parole pour faire silence, pour te laisser nous enseigner, pour que nous puissions grandir à ta lumière, fondée sur ton amour, ta vérité, sur ta parole, et que nos vies portent ton fruit pour notre plus grande joie, et qu'elle apporte la paix à nos âmes et la grâce dans nos vies, qu'elles soient des vies difficiles ou faciles, que ce soit des vies pleines de toi. Et quelque part, Seigneur, les plus grandes vies dans la Bible sont les vies qui ont été vraiment difficiles. Quand on voit par exemple Moïse, sa vie a été marquée par beaucoup de douleurs, et pourtant, tu as traversé cette vie d'une lumière incroyable que nous voulons méditer aujourd'hui. Merci Seigneur de traverser nos vies de cette lumière dont nous avons tellement besoin. La lumière de ton esprit, la lumière de ta parole, toi Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir le livre de l'Exode, la première moitié. La plupart d'entre vous connaissent l'histoire. Bien sûr, vous connaissez, il y a le méchant Pharaon, il y a le gentil Moïse avec son frère Aaron qui vont faire que les Israélites, le peuple juif, va partir. Les méchants vont être punis, il va y avoir 10 plaies, il va y avoir 10 difficultés. Pourquoi il y en a 10? À quoi ça sert? Ouais, c'est pas important, c'est juste des choses qui sont arrivées, quoi. Pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu a fait comme ça? Qu'est-ce que nous pouvons, en passant un peu de temps, apprendre sur les façons que Dieu a pour délivrer? Comment est-ce que Dieu délivre? Ça va être le sujet de la première partie de l'Exode pour aujourd'hui, le sermon pour aujourd'hui. Sur votre graphique, vous voyez, on commence tout en bas à gauche. Ça sera Dieu qui promet de délivrer. La délivrance promise, si vous voulez. Je suis désolé, le titre, je l'ai simplifié après avoir imprimé, donc je vous demande pardon. Vous n'avez pas besoin d'apprendre. Dieu promet de délivrer Israël de l'esclavage. Vous pouvez vous rappeler délivrance promise. Ça vous va? Les chapitres 1 à 6, vous pouvez répéter avec moi. Délivrance promise.
Délivrance promise.
Ok, vous vous rappelez ce qui se passera à la fin du sermon? On vérifiera si vous pouvez vous en rappeler. Aussi pour vous, pour vous rappeler quelles sont les étapes que Dieu utilise pour délivrer. D'abord, il promet sa délivrance. Ensuite, il va y avoir les chapitres 7 à 12. Vous voyez, c'est à chaque fois 6 chapitres. Ça va être les 10 plaies. Vous pouvez répéter après moi, 7 à 12, les 10 plaies.
7 à 12.
D'accord. Le but de vous les faire répéter à haute voix, c'est que votre mémoire marche mieux en répétant à haute voix. Quand on répète dans notre tête, on diminue de moitié notre capacité à se souvenir. C'est tout bête. Ceux qui veulent des explications psychologiques, je vais vous dire, il y a deux raisons. D'abord, quand vous répétez, il y a l'effet kinesthésique, parce que vous allez faire bouger votre corps en lisant. Ça double votre attention. Ensuite, parce que vous allez entendre encore mieux ce que vous dites, et vous allez doubler la qualité de votre apprentissage. Donc quand je vous fais répéter, ce n'est pas pour être comme des gamins, c'est pour vous rappeler, pelier. Et si on s'amusait à faire une moitié de l'église qui répète à haute voix et l'autre moitié qui répète dans sa tête, on pourrait s'amuser à voir et vous verrez que ceux qui ont répété à haute voix se rappelleront mieux. Alors il y en a qui sont futés, qui vont dire « Moi je vais faire un gros effort pour me rappeler » et parce qu'ils font un plus gros effort que les autres, ils arriveront à cacher le fait qu'en ne répétant pas, ils y arrivent. Mais la réalité, c'est que quand vous faites répéter quelque chose à quelqu'un, la personne s'en rappelle mieux. Et c'est pour ça que je vous le fais répéter. Pas parce que vous êtes des gamins, parce que vous êtes des hommes, des femmes qui avait un corps. On n'apprend pas avec la tête, on apprend avec le corps. Avec l'ouïe, avec les yeux, avec le corps. C'est pour ça que répéter est un élément important que je vous fais faire. Et j'espère que vous comprendrez aussi pourquoi. Ce n'est pas seulement parce que j'ai envie de faire le professeur. C'est pour vous que je le fais. Donc il y a les 10 plaies. Et ça va être un gros point d'aujourd'hui de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 plaies? Pourquoi Dieu, il a besoin de tout ce temps? Pourquoi il ne dit pas, « Bon, maintenant, Pharaon, tu ne veux pas délivrer mon peuple. Moi, je veux Moïse, tu parles, il y a toute l'Égypte qui est paralysée, vous sortez de l'Égypte et c'est fini. Puissance de Dieu incroyable, c'est terminé. Pourquoi est-ce qu'il a besoin de 10 étapes pour manifester ce qu'il veut faire? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de 10 points? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui est en jeu? Et ensuite, on va voir la troisième partie, les versets 13 à 18, ça sera délivrance d'Israël. Est-ce que vous pouvez chapitre 13 à 18, pardon. Vous pouvez répéter après moi, 13 à 18, délivrance d'Israël.
13 à 18, délivrance d'Israël.
Voilà. La partie 1 à 6, c'est quoi déjà? Délivrance promise, ensemble. 1 à 6, délivrance promise.
1 à 6, délivrance promise.
7 à 12, les plaies.
7 à 12, les 10 plaies.
Les 10 plaies. 13 à 18, délivrance d'Israël.
13 à 18, délivrance d'Israël.
Alors ceux qui savent un peu, qui aiment bien les mathématiques, c'est 3 fois 6 chapitres. 1 à 6, 7 à 12, 13 à 18. Au milieu du sermon, on fera une petite pause pour voir si vous vous rappelez, et à la fin aussi. Mais avant cela, j'aimerais que vous puissiez me dire, c'était qui déjà les personnages clés de Genèse, le livre juste avant l'Exode? On avait qui le premier dans Genèse?
Adam.
Ensuite
Noé.
Noé. Joseph, il a été où?
En Égypte.
Il y a été, il est arrivé comme sous quel titre? Il est arrivé comme un esclave. Qu'est-ce qui lui est arrivé? On l'a sorti de prison, il est devenu quoi ensuite? Il a fini sa vie comme quoi?
Premier ministre
de Pharaon. L'homme le plus puissant juste après Pharaon. Premier ministre, c'est l'équivalent aujourd'hui. Ça aurait été l'assistant du roi, ou comme vous voulez, mais le Pharaon dans l'histoire de l'Exode, de Genèse, dira à Joseph, je te donne ma bague, le sceau. Pourquoi on donne la bague? C'est parce que c'était le sceau pour marquer tous les documents officiels. Donc concrètement, c'était comme s'il lui disait, je t'autorise de signer avec ma signature. Ça veut dire que tu peux faire des édits, tu peux faire des décisions comme tu veux. Il n'y a que moi qui t'es supérieur, et seulement si je ne suis pas content avec toi, je peux te chasser.
C'est le gardien des sceaux.
Le garde des sceaux, c'est un peu ça. Ça a perdu beaucoup de son sens hein, aujourd'hui, mais c'était un peu ça. Le dernier sera les premiers. Et les premiers seront les derniers. En Genèse, on a vu la première partie qu'on aime bien. Les derniers seront les premiers. Au début de l'Exode, on va voir quoi? Les premiers vont être quoi? Alors d'abord, ça va être pour le peuple d'Israël. Parce que dans le premier chapitre, on voit qu'il y a un nouveau pharaon qui va venir. Ce nouveau pharaon ne se rappelle pas de l'histoire de Joseph. Il voit juste une chose. Il voit que le peuple juif ne s'est pas intégré avec les Égyptiens. Ils sont restés un peu indépendants. Qu'ils sont devenus très nombreux. Un nombre qui, ils se disent, s'il y avait une guerre, si ce peuple se mettait contre eux, il pourrait détruire l'Égypte. Donc ils se disent, c'est un danger pour nous. Comment est-ce qu'il va régler ce danger? Il aurait pu essayer de régler ce danger en disant, on va faire une alliance. On va dire, cette terre vous appartient pour de bon, à Goshen, vous n'êtes pas seulement sur cette terre, mais elle vous appartient. Faisons une alliance. Et vous êtes soumis à Pharaon par une alliance pour qu'on n'ait pas de peur. Ça aurait pu être une méthode. Mais ce n'est pas la méthode que Pharaon va utiliser. Il va dire, je suis le Pharaon, j'ai droit et pouvoir sur toute l'Égypte. Je me suis habitué depuis Joseph, c'est Joseph qui a donné au Pharaon le pouvoir de posséder toute la terre d'Égypte. Et de posséder tous les Égyptiens comme ses serviteurs. Avant, ça n'était pas le cas. C'est pendant l'histoire de Genèse qu'on voit que les personnes d'Égypte vont se vendre à Pharaon, leur terre, leur bétail et eux-mêmes, et ensuite Pharaon demandera un cinquième de leur récolte. Ça veut dire que Pharaon va devenir propriétaire de tout ce qui est en Égypte. Et c'est pour ça qu'il va considérer qu'il est propriétaire aussi du peuple juif. Et comme il trouve qu'ils sont trop nombreux, il va décider d'une méthode. Il va dire, on va diminuer le nombre. Alors, comment diminuer le nombre? Il va dire, voilà, la méthode, c'est d'abord, on va les opprimer. Ça ne marche pas, ça ne suffit pas parce qu'ils continuent à se multiplier. Ensuite, on va dire qu'on va tuer tous les fils, tous les garçons. Comme ça, les filles sont obligées de se marier avec des Égyptiens. Quand elles se marient avec un Égyptien, elles prennent un nom égyptien. elles vont devenir égyptiennes et ce peuple va s'intégrer complètement avec notre peuple. Stratégie, sur le long terme, on annihile le peuple d'Israël. Parce que dans les traditions de l'époque, quand on se mariait, la fille devenait membre de la famille du garçon et donc adoptait les coutumes du garçon. Donc c'était une stratégie pour intégrer complètement, c'est pour ça qu'ils ne disent pas « on va tuer les filles ». Non, on tue les garçons, comme ça on est sûr. Mais pour tuer les garçons, il y avait un problème. Qui va faire le sale boulot? Qui va faire le sale travail? D'abord, Pharaon va dire aux femmes qui sont celles qui aident les mamans à donner naissance, qui sont égyptiennes, il va dire « comme c'est vous qui les aidez, quand vous voyez que c'est un garçon, vous vous débrouillez pour qu'il meure ». Débrouiller pour que le cordon ombilical s'entoure autour de la tête. Vous vous débrouillez comme vous voulez, le garçon doit mourir. Qu'est-ce que vont faire les femmes? Elles vont dire... Elles vont avoir la crainte de Dieu et elles vont dire... D'abord, elles ne vont pas le faire. Ensuite, Pharaon ne va pas être content, on va leur dire « Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez pas fait ce que je vous ai demandé ?» Elles diront « On est désolé. » Vous savez, les femmes juives, elles ne sont pas comme les égyptiennes. Les égyptiennes, elles viennent, on les aide à accoucher. Les femmes juives... Le bébé, il vient avant qu'on arrive. On nous dit, elles sont en train d'accoucher, elles ont déjà le bébé, on ne peut pas faire. Donc finalement, elles vont faire un petit mensonge, mais qui va permettre aux femmes juives de continuer à avoir leur garçon. Ensuite, Pharaon va utiliser une autre méthode. Il va donner son ordre à tous ses serviteurs de tuer tous les enfants. Tous les petits garçons, on va les mettre à mort. Plus tard, dans l'histoire d'Israël, il y aura aussi un homme qui va essayer de tuer tous les enfants. Tous les garçons. Vous connaissez son nom ? Hérode. Ça sera dans l'histoire du Nouveau Testament, en Matthieu chapitre 2. Et Pharaon n'y réussira pas complètement à ça. Il va réussir à tuer certains enfants, mais certains vont passer entre les mailles. Entre autres, une des techniques, c'est que une maman, au bout de 3 mois avec son petit bébé, va le mettre dans une corbeille. Elle va le laisser sur le Nil, en espérant, en priant, pour qu'une maman... une femme égyptienne ait pitié et qu'elle prenne ce petit bébé comme son enfant. Parce qu'elle se dit, s'il reste avec moi, il va être tué. Mais s'il vient avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un d'égyptien, peut-être qu'il va survivre. Elle veut la vie pour son enfant, elle veut que son enfant vive. Cette maman, elle s'appelle Jochébed, son papa s'appelle Amram et il a une petite sœur qui s'appelle Myriam. Et Myriam suit cet enfant qui n'a pas encore de nom. Et cet enfant va s'arrêter parmi les joncs, juste à côté, où il va y avoir une des filles de Pharaon qui est en train de se baigner. Alors, ou d'aller au lac, au Nil, pardon. Rappelez-vous que les pharaons avaient beaucoup de femmes, plusieurs femmes et plusieurs enfants. Donc, n'imaginez pas que l'enfant l'a amené juste à l'entrée du palais, on l'a poussé juste devant l'endroit où il y avait... la princesse, la seule princesse, et tout d'un coup, oh, ça y est, c'est la fille de Pharaon, elle l'accueille. Non, Pharaon avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, et qui vivaient souvent près du Nil. Donc, il y avait plusieurs endroits où il y avait finalement cette situation qui aurait pu se passer. Et c'est une des filles de Pharaon qui va recueillir Moïse, qui va en faire son fils. Et, ironie du sort, les Égyptiennes souvent demandaient à avoir une nourrice. Parce que, comme par exemple dans les familles royales, dans beaucoup de pays, les reines n'avaient pas envie de trop de s'embêter avec des enfants qu'il fallait allaiter, c'était ennuyeux. Donc on donnait les enfants à allaiter, il y avait deux raisons. La première raison, c'est qu'elles ne se fatiguaient pas comme ça, elles pouvaient se préoccuper seulement des choses qui les intéressaient, les enfants ne les embêtaient pas, premier point. Deuxième point, beaucoup d'enfants mouraient en bas âge. C'était plus facile de donner l'enfant avec la nourrice. S'il vit au bout de 2-3 ans, on le reprend. S'il meurt, on l'oublie. Donc comme ça, ça permettait de ne pas trop se soucier, de ne pas s'attacher à l'enfant. Allez, il est sorti de mon corps, débrouillez-vous avec lui ou avec elle. Faites-le ou la grandir. S'il a passé 3 ans, l'enfant, il y a de grandes chances qu'il vive. Donc je le reprends. Et dans ce cas-là, le petit Moïse, ironie du sort, il y a sa sœur Myriam qui va dire à la fille de Pharaon, est-ce que tu veux que je te trouve? Quand elle voit que la fille de Pharaon va prendre l'enfant, elle lui dit, est-ce que tu veux que je te trouve une nourrice? Bien sûr! C'est la démarche classique de l'époque. Donc, la petite Myriam, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène le bébé à sa maman, la vraie maman, Jochébed, qui va faire grandir le petit Moïse en lui expliquant des bases de la foi, en gardant un lien que Moïse gardera avec sa famille dans sa grand, quand il grandit, en même temps qu'il va être imprégné de la connaissance de toute l'Égypte. L'Égypte, on est vers 1200-1400 avant Jésus-Christ. Ça fait à peu près 1000 ans qu'ils savent comment écrire, les Égyptiens. 1000 ans. C'est encore plus de 1000 ans avant que les Européens commencent à savoir tenir un crayon. 2000 ans avant que des rois sachent tenir un crayon. En Égypte, ils savent déjà faire ça. Ils ont déjà des proverbes, ils ont déjà des études au niveau de l'astronomie, au niveau de la mesure, au niveau des architectes. On voit par exemple avec les pyramides. Ils ont des techniques de mesure, etc. Beaucoup plus avancées que tout le bassin méditerranéen, tout le reste. À Rome, ils savent à peine faire des épées à l'époque. Là, ils savent écrire, ils savent transmettre, ils savent faire des bâtiments incroyables. Et c'est là que Moïse va être formé. Que Dieu va le mettre pour qu'il soit formé, ce petit enfant. Alors que son peuple est oppressé. Quand Moïse grandit, qu'est-ce qu'il veut faire ? Il va vouloir aider son peuple. Il voit une fois, même s'il a grandi avec les Égyptiens, il sait lui d'où il vient, même s'il sait qu'il ne doit pas trop en parler. Il voit d'abord un Hébreu se battre avec un autre Hébreu. Quand vous avez deux personnes qui se battent, est-ce que c'est facile de savoir qui a raison ? C'est, la plupart du temps, c'est extrêmement difficile. Ne vous prenez pas pour le champion du monde qui sait. Quand vous voyez un couple qui se bat dans la rue, est-ce que vous arrivez à dire lequel a raison ? Des enfants qui se battent dans la cour d'école, c'est très difficile. Des fois, ce n'est seulement qu'après que vous saurez. Les parents, en général, comment ça marche ? On va gronder le plus âgé, et puis après, on va essayer de savoir ce qui s'est passé. Mais c'est très difficile. Ça peut être le plus jeune qui a cassé le jouet d'un plus grand. Ça peut être, quand deux personnes se battent, ça demande beaucoup de discernement de savoir qui a raison. Moïse a ce discernement. Il a cette capacité de juger avec justice. Ça vient de Dieu. C'est un don de la grâce de Dieu. Et il voit les deux se battre, et il dit à celui qui a tort de s'arrêter. Je vous demande pardon, j'ai inversé deux histoires. Cette histoire arrivera juste après une autre. Il y a eu une autre histoire avant. Juste peu de temps avant, il s'est passé la chose suivante. Il y a eu, c'était dans le chapitre 2 toujours, il y a eu Moïse qui a vu un Égyptien qui battait, qui était prêt de tuer un Hébreu. Qu'est-ce que fait Moïse ? Il essaye d'arrêter ça. En essayant de l'arrêter, il tue l'Égyptien. Il l'enfouit dans le sable pour cacher son crime. Et très peu de temps après, c'est là qu'il voit les deux Hébreux se battre. Il dit à celui qui est coupable de s'arrêter. Qu'est-ce qu'ils vont lui répondre ? Tu vas nous tuer aussi ? Juste avant, ils vont dire, et vous pouvez chercher, c'est dans le chapitre 2, celui, la première personne qui trouve le verset, qui t'a... Qui t'a nommé chef et juge sur nous ? Qui t'a donné l'autorité de nous juger ? Juste après, il va dire, est-ce que tu vas faire comme... Je crois que c'est dans cet ordre-là. Voilà. Donc juste avant, il dit, c'est qui t'a fait comme juge ? De quel droit tu te places comme juge ? Et il a une bonne raison de le dire. Personne n'a donné l'autorité de juge à Moïse. En plus, il est égyptien. Et les Hébreux ne sont pas prêts à dire à Moïse, « Vas-y, dis-nous ce que tu veux qu'on fasse. » Pour eux, il n'a aucune raison de leur dire ce qu'il faut. Et juste après, Moïse réalise que l'on sait qu'il a tué un Égyptien, qu'il est en danger, que son identité juive risque d'être connue. Si elle est connue, il va perdre beaucoup de crédit auprès du Pharaon. Et il est en danger de mort. Il va fuir pour sa vie. Il va fuir pour sa vie, Moïse. Et il va se cacher dans le désert. Ça va être l'histoire du chapitre 2 jusqu'au chapitre 3. Il va devenir berger. Lui qui voulait diriger, guider des hommes pour une attitude juste, protéger son peuple et empêcher que le mal se fasse dans son peuple. Les Égyptiens ne voulaient pas d'abord qu'il corrige des gens égyptiens et qu'il juge ou qu'il puisse tuer quelqu'un. Les Hébreux ne voulaient pas qu'il soit juge. Personne ne voulait qu'il ait cette autorité. Personne ne lui avait donné cette autorité. Il part dans le désert, et dans le désert, il se retrouve avec un beau-père, Jéthro, qui lui donne une épouse. C'est Tsippora en hébreu, qui veut dire une sorte d'oiseau. Et d'ailleurs, le mot Moïse est un mot qui est une sorte de jeu de mots. En hébreu, c'est Meshitihu, c'est Moshe, et ça vient du mot Meshitihu, qui en égyptien voulait dire, pour la fille de Pharaon, je t'ai tiré des eaux. En égyptien, ça veut dire je t'ai tiré des eaux, le nom Moïse. Mais en hébreu, ça veut dire celui qui tire des eaux. Donc il y a un changement. Pour les Égyptiens, ils se disaient, c'est nous qui t'avons tiré des eaux. Mais en hébreu, ça veut dire l'inverse. C'est lui qui va tirer des eaux. Et vous allez voir comment il va tirer son peuple des eaux. Comment il va délivrer son peuple de la mort et de l'esclavage. Et alors que Moïse est avec son beau-père Jéthro, Jéthro va lui donner une certaine autorité. Pas sur des hommes, pas sur des Hébreux, pas sur des Égyptiens. Il va leur donner autorité sur des moutons. Il va devenir berger. Donc il va commencer à s'entraîner pour son autorité avec des moutons. Il va devenir berger, apprendre à les guider, apprendre à les mener, apprendre à prendre soin d'eux. Il va y passer, on pense, près de 40 ans à faire ça. 40 ans à faire berger. C'est afin que s'accomplisse l'écriture. Néanmoins, c'est pendant 40 ans. Ça fait long, 40 ans. C'est long, hein, 40 années. 40 années, c'est vraiment toute une carrière. Il a vécu toute une carrière de berger. Quand il arrive à sa fin de carrière de berger, quand il a 80 ans, il voit un buisson qui brûle de manière étrange dans le désert, sur une petite montagne, près du Sinaï. Et dans ce buisson qui brûle, il observe quelque chose. C'est que le buisson, quand ça brûle, ça devrait se consumer et ça s'arrête de brûler. Ce buisson-là, plus il regarde, plus il voit qu'il ne s'arrête pas et que ça continue, comme si ça ne se détruisait pas. Et il entend une voix. Moïse, Moïse. Et Moïse va répondre. Il va venir. Et cette voix, c'est la voix de Dieu, qui va lui dire, j'ai entendu mon cri, le cri de mon peuple en Égypte, mon peuple, le peuple hébreu, le peuple d'Israël, qui souffre. Et j'ai décidé que c'était le moment de le libérer. Combien de temps ils ont passé en esclavage, le peuple juif ?
400 ans.
Alors pas 400 ans. Ils ont passé 400 ans en Égypte. Mais ils ont passé peut-être 40 ans en esclavage. Parce que ça a été le temps de Moïse de 0 à 40 ans. Et avec les 40 ans supplémentaires, ça fait 80 ans en tout. Donc peut-être près d'un siècle d'esclavage. Quand on a passé un siècle dans l'esclavage, on a pris l'habitude de ce que ça veut dire être esclave. On a pris l'habitude de ne plus lever les yeux. On a appris l'habitude de se faire battre. On a pris l'habitude de savoir qu'on n'a aucun espoir de s'en sortir. On a pris l'habitude de faire partie d'une caste inférieure, de se sentir inférieur aux autres, de se sentir limité. On a perdu la foi qu'on peut faire plus que ça. On est devenu habitué. Et dans vos vies, vous avez souvent été habitué à être esclave de votre petit monde, de croire que finalement, il n'y a que certaines possibilités. Et la foi, ce que Dieu va faire avec son peuple, ça va être d'ouvrir leur regard, de leur montrer qu'il peut faire plus si eux sont fidèles dans tous les domaines de leur vie. Qu'il peut faire plus, qu'il peut faire des choses qui auraient pris des dizaines d'années pour nous en peu de temps. Mais selon sa volonté, et que c'est lui qui est guide. On ne pourra pas faire à Dieu ce que nous voulons, mais d'abord lui ce qu'il veut. Mais en même temps qu'il fait ce qu'il veut, il va nous montrer qu'il a une puissance bien supérieure à ce que l'on croyait. D'abord, pour Moïse, il va lui dire, écoute Moïse, je t'envoie, tu vas délivrer mon peuple des Égyptiens. Moïse, lui, il commence à se rappeler de ce qui s'est passé. Il se rappelle que ce peuple ne voulait pas qu'il juge, ne voulait pas qu'il ait autorité sur eux. Et donc, qu'est-ce qu'il va répondre ? Moïse, il va dire, comment je saurai ? Et c'est là qu'on va lire des versets très importants pour toute la Bible. J'aimerais que vous vous tourniez tous vers Exode 3, versets 12 à 14. D'abord, on va lire les versets 11 et 12. Je vais demander à Laurence, tu vas nous lire les versets 11 et 12, s'il te plaît.
Moïse dit à Dieu : Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ? Je serai avec toi, lui répondit Dieu. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci.
Le signe que Dieu donne à Moïse, c'est tu vas voir, vous allez venir m'adorer sur cette montagne. Est-ce que ça vous plairait un signe comme ça ?
Oui. Non, parce que ça veut dire que c'est pas Dieu qui fait signe, il nous demande de participer en fait.
Il veut qu'on participe. Concrètement, Moïse, pour voir le signe de Dieu, va devoir lui être fidèle en toute chose. Suivre tout ce que Dieu lui dit et avoir quoi dans son cœur ? La foi. Un signe. Les signes que Dieu nous donne sont des signes qu'on a à recevoir par la foi, où on a à marcher par la foi, où on a à faire confiance à Dieu qu'il va faire sa volonté à travers ce qui se passe. Et nous, on aimerait bien que Dieu fasse tout le travail. On aimerait bien, Moïse, il aimerait bien qu'il dise « Bon, ben d'accord, Dieu, vas-y. » Tu m'envoies en tapis volant jusqu'au palais de Pharaon, et puis ensuite je te demande de détruire complètement le palais de Pharaon, d'envoyer le peuple dans le désert jusqu'à la montagne, et tu me ramènes si possible en tapis volant, j'aime pas marcher, me fatiguer, et puis comme ça je serai content. Ça c'est les signes que les hommes aiment, que les êtres humains nous aimons parce que c'est Dieu qui fait tout. À chaque fois Dieu fait l'inverse, il dit « Tu vas me suivre en tout domaine de ta vie, tu vas m'être fidèle ». Et plus tu mets ta vie en ordre devant moi et que tu fais ce à quoi je t'appelle, plus ce que moi je veux va se réaliser dans ta vie. Mais des fois, nous, on aimerait bien que Dieu fasse son travail, même si nous, on reste tordus. Hein ? On sait, il y a cette petite partie de ma vie, il y a telle relation qui n'est pas selon la volonté de Dieu, c'est pas grave. Le levain, quand vous en avez dans votre maison, il pourrit toute la pâte. Il peut le faire lever toute la pâte, dira Jésus. Quand dans votre vie, il y a quelque chose qui n'est pas en ordre devant Dieu, ça a un impact sur toute votre relation avec Dieu. Je suis désolé, mais c'est une réalité. Quand notre vie est à 90% en ordre avec Dieu, c'est comme si vous me disiez, dans ce verre d'eau, il y a 90% d'eau pure. Je ne vous dis pas les 10% de reste, qu'est-ce que c'est ? Qui veut boire de cette eau ? Dans le reste, j'ai mis du desktop, j'ai mis de la morora pour 10%, j'ai mis de l'ammoniac, j'ai mis de la ciguë. Qui veut boire de mon verre d'eau ? 90% pur. Hein ? La dîme, venir à l'église le dimanche, mais il y a 2-3 péchés, je les ai laissés derrière. Qui veut boire de cette eau ? Et nous voudrions que les autres reçoivent des enseignements de nous. Nous voudrions être des exemples pour les autres. Souvent, on a cette tentation. Et Moïse, Dieu lui dit... Tu vas faire le boulot avec la foi et tu vas voir qu'en même temps que tu me mets en premier, des choses vont se passer. En même temps que tu me mets en premier dans tous les domaines de ta vie, que ce soit au niveau du départ, tu vas partir de l'endroit où tu es en sécurité, le risque de mourir, parce qu'il risque de mourir en retournant en Égypte. Et plusieurs fois, il va risquer de mourir. Même aux mains, que ce soit aux mains des Égyptiens ou aux mains du peuple juif. Des fois, ça va être le peuple juif qui va vouloir le lapider. Des fois, ça va être le pharaon qui va vouloir le tuer. Mais Moïse va faire confiance à Dieu. Mais avant que ça arrive, il va y avoir 2-3 discussions qui vont être nécessaires. Donc d'abord, Dieu donne un signe, lui dit, le signe, c'est que si tu me fais confiance, ça va marcher. Le signe que Jésus est vivant, c'est que si vous lui faites confiance dans toute votre vie, vous aurez la vie éternelle. Qui aime bien ce genre de signe ? Qui aime bien ? La plupart du temps, on n'aime pas trop. Parce que nous, on veut du maintenant, du concret. On se dit, c'est ça la réalité. Mais Jésus nous dit, celui qui est mon disciple, celui qui fait la volonté de mon Père, sera avec moi pour toujours ensuite. Et ça, c'est pareil que pour Moïse. Dieu lui dit, tu vas pouvoir adorer sur cette montagne, sortir de tous tes problèmes, faire cette chose incroyable de faire sortir tout un peuple de la plus grande nation de l'époque, de la plus grande armée de l'époque. C'est comme s'il disait à un petit peuple enfermé, emprisonné, par exemple, aux États-Unis, tout ce peuple va être libéré et va pouvoir partir dans un pays indépendant. Impossible. selon les hommes. Maintenant, j'aimerais que nous lisions les versets 13 à 14. Exode 3, versets 13 à 14. Anton, est-ce que tu pourrais nous lire les versets 13 à 14 ?
Moïse dit à Dieu : J'irai donc trouver les Israélites, et je leur dirai : Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais si vous me demandez quel est son nom, que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse : Je suis celui qui suis. Il ajouta : Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous.
Merci. Il a donné le signe pour Moïse, il donne le signe pour le peuple d'Israël. En hébreu, l'expression « je suis celui qui suis », en hébreu c'est « Ehye Asher Ehye ». La façon la plus simple pour un débutant de traduire cette phrase, c'est pas « je suis celui qui suis ». Pour quelqu'un qui a fait un mois d'hébreu, il va traduire « je serai qui je serai ». « Je serai qui je serai ». Finalement, ce nom correspond, et la plupart des traductions en français, écrivent « je suis celui qui suis ». En allemand et en anglais, vous avez certaines traductions qui commencent à mettre des fois « je serai qui je serai », qui, je pense, « je suis celui qui suis », c'est une façon de dire qu'il ne change pas. C'est un Dieu qui reste le même. Et le Dieu d'Israël est un Dieu qui ne change pas.
Oui, je suis fidèle à moi-même et à mes promesses.
Oui. Dieu avait un nom. « Je serai qui je serai », c'est un nom. Et en quatre lettres, ça deviendra le nom Yahvé. Yihye, ça veut dire je serai. Jéhovah, ça c'est les gens qui ne connaissaient pas l'hébreu. Jéhovah, c'était un nom que des gens utilisaient parce que dans les Bibles en hébreu, quand les Juifs écrivaient, ils savaient que le nom de Dieu on ne le prononce pas. Ils savaient quand vous avez le nom de Dieu, vous dites Seigneur. En hébreu, le mot Seigneur, ça se dit Adonai. E-O-I, c'est presque ça. Si tu veux, la traduction EOA quasiment. C'est les voyelles. Donc il mettait juste les voyelles pour se rappeler. Tu lis pas les consonnes, tu lis juste les voyelles pour te rappeler que c'est Seigneur que tu lis et non pas Yahvé. Et les gens qui ne connaissaient que très peu d'hébreu, qui n'ont pas fait deux mois d'hébreu, mais qui ont fait deux jours d'hébreu, qui connaissent juste l'alphabet, ils voient la Bible en hébreu et ils voient la consonne et la voyelle. Y. E, H, O, V, A, H. Les voyelles, les consonnes sont complètement séparées. On le sait depuis 20 siècles. Tout le monde le savait. Les Hébreux, même les Grecs, quand ils ont traduit l'hébreu, ils ont traduit Seigneur, Kurios, parce qu'ils savaient qu'on ne lisait pas. Mais il y a des gens au 19e siècle, ils ne connaissaient pas l'hébreu. Au 16e, 17e siècle aussi, dans la Bible King James, ils avaient aussi des gens qui avaient fait ça, ils ne comprenaient pas bien. Ils avaient dit, ça doit être Jéhovah. Il y a les E-O-A de Adonai, du Seigneur, et Y-H-V-H, des consonnes. Ils les ont collées ensemble, alors que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire de l'hébreu. Ça ne s'est jamais fait, et n'importe quel étudiant ou enseignant d'hébreu leur aurait dit, non, c'est pas comme ça que vous lisez. N'importe quel rabbin, autant même de la King James au XVIIe siècle, leur aurait dit, non, vous ne devriez pas écrire ça. Mais il y a eu pendant trois siècles, si vous voulez, l'habitude d'écrire Jéhovah, qui finalement, quand vous voyez Jéhovah, c'est une démonstration, vous savez que quelqu'un qui dit Jéhovah ne connaît pas l'hébreu, ne connaît pas le texte d'hébreu, et ne connaît pas le texte original, mais a l'impression que c'est le nom. Alors, quand vos pères ont dit que c'était ça le nom, quand vos grands-pères ont dit ça, ben, à un moment donné, vous vous dites, ça doit être le nom, quoi. Mais je suis désolé, n'utilisez pas le terme Jéhovah. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé. Ça a commencé à exister au XVIIe siècle, quand des gens qui essayaient de traduire depuis l'hébreu en anglais, ça s'est fait surtout dans le monde anglophone. Un peu dans le monde francophone. Le monde allemand, ça n'a pas duré longtemps. Et c'est une mauvaise traduction. Au niveau traduction, c'est que des gens qui n'ont pas compris qu'il y avait Seigneur et les quatre lettres du nom de Dieu qui étaient combinées. C'est finalement... On peut montrer que c'est le cas depuis le 1er siècle déjà, où il y a eu la traduction grecque, on peut déjà montrer. Donc la réponse à cette question...
Mais après, il a révélé son nom au monde entier.
Alors, c'est...
Plus tard, il a révélé son
quand nom. Quand est-ce qu'il a révélé
Jésus.
Ah, voilà, en Jésus. Il révélera encore plus qui il est à travers Jésus. Yeshua, je suis celui qui sauve, Dieu sauve. Tout à fait. Alors, on voit que je serai qui je serai, c'est une façon pour Dieu de dire, le signe que je te donne à toi, ça va être le même signe que je vais donner au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, tu vas leur dire, je serai qui je serai. Donc, en gros, si vous me faites confiance, si vous marchez par la foi, qui c'est qui avait dû faire un peu cette expérience déjà de partir sans savoir où il allait et de faire confiance que Dieu allait guider? Il s'appelait comment? Abraham. Le premier patriarche d'où est issu la famille d'Israël. C'est pas le dernier. Isaac a dû faire pareil. Jacob a dû faire pareil. Joseph a dû faire pareil. Moïse devra faire pareil. Toutes les générations de croyants sont appelées à faire pareil. De dire, ok, je te fais confiance Seigneur, et en même temps que je te fais confiance, sur combien de pourcents de notre vie?
100.
Est-ce que c'est pas suffisant, 99%?
Non.
Et de dire, par exemple, là, ce truc-là, je ne veux pas y toucher. Si vous voulez vous en rappeler, rappelez-vous de ce verre, avec, vous pouvez mettre jusqu'à 99,9% d'eau pure et 0,1% de poison. Qui va vouloir en manger? Qui va vouloir en boire de ça? Eh bien, nos vies, elles sont comme ça. Tant que le poison du péché est d'une attitude qui n'est pas encore complètement en ordre avec Dieu est là, ne soyez pas surpris que rien ne se passe dans vos vies. Ce poison vous détruit avant de détruire les autres. Et il détruira les autres ensuite. Et c'est le chemin de Moïse qu'il va petit à petit obéir à Dieu dans tous les domaines. Et il va partir. Il va demander quand même quelques signes en plus parce qu'il n'est pas très à l'aise. Dieu va même se mettre en colère avec lui. Et Dieu, il sait tellement que Moïse est celui qu'il faut pour cette mission, qu'il va un peu lui forcer la main. Dieu le fait très rarement. Mais il sait que c'est Moïse qui a cette capacité, que c'est un homme humble, tellement humble qu'il en arrive jusqu'au point de dire « Je ne suis pas capable, Dieu. » Et Dieu lui dit « Je t'envoie ton frère qui vient me chercher. Va et raconte-lui ce que je t'ai dit. » Qu'est-ce qui va se passer quand il va aller lui raconter ce qu'il a dit? Quand il va raconter à son frère Aaron ce que Dieu lui a dit, Aaron va se réjouir et finalement va encourager Moïse à faire ce à quoi Dieu l'a appelé. Et c'est ce qui va se passer. Et dans ce processus, on va avoir la préparation de Moïse et de Aaron pour cette mission incroyable, difficile, mais si importante. Cette mission va être d'aider un peuple qui est habitué à l'esclavage, un esclavage physique et spirituel. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? En Égypte, vous avez des dieux pour tout. Vous avez le dieu du Nil qui s'appelle Hapi. Vous avez le dieu des bœufs qui s'appelle Apis. Le dieu des faucons, le dieu des chats, le dieu des vaches. Je sais plus si c'est pas Isis, le dieu de tous les animaux quasiment que vous pouvez imaginer, le dieu des crocodiles. Vous avez déjà vu dans les images des pharaons, des dieux de l'époque, une sorte de dieu avec une tête de crocodile?
Oui.
Avec une tête d'oiseau d'ibis?
Une tête de loup.
Une tête de loup, une tête de chien, une tête de chacal, une tête de porc, une tête de vache. Vous avez tous les animaux que vous pouvez imaginer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient considéré que tout ça, c'était des dieux à qui il fallait plaire. Tellement des dieux qu'il y a eu un roi qui, au temps des Perses, ça sera à près de 1000 ans, 800 ans après l'histoire qu'on est en train de raconter. Ce roi, c'est le fils de Cyrus, celui qui va être un roi important de l'histoire d'Israël. Ce fils, Cambyse, va venir jusque en Égypte, et comment il va faire pour gagner la guerre contre les Égyptiens? Il va mettre des animaux en premier rang de son armée. Il va attaquer une ville où c'est les chats qui sont considérés comme dieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre un paquet de chats devant eux et ils avancent juste derrière. Alors ça fait du bruit et ça fait qu'ils n'ont pas osé... Les Égyptiens n'ont pas osé lancer leurs chars, n'ont pas osé lancer leurs attaques les plus violentes parce qu'ils n'ont pas osé lancer des flèches de peur de tuer un chat, parce que le dieu chat aurait été en colère contre eux après. Vous voyez un peu l'histoire? Et c'est dans cette idolâtrie que Dieu va aider son peuple à découvrir qu'il est plus puissant que tout ce bazar. Ils ont des dieux pour le tonnerre, ils ont des dieux pour la pluie, ils ont des dieux pour le Nil, pour la terre. Le dieu quasiment le plus puissant, c'est le dieu du soleil, Ra. Et le pharaon est considéré comme un représentant de Ra sur terre. Donc vous allez voir comment tous les signes vont être une démonstration progressive que Dieu a pouvoir sur tous les domaines de la vie, et une démonstration pour les Égyptiens, mais pour qui d'autre ? Pour les Hébreux, pour les aider à prendre conscience que toutes ces idoles n'ont aucun pouvoir face au Dieu trois fois saint, au Dieu d'Israël. Parce que quand vous êtes habitué à une idole, vous croyez qu'elle est toute puissante. Votre idole, ça peut être l'argent. Vous dire, si je n'ai pas d'argent dans mon compte en banque, plus rien n'ira. Je ne suis pas en train de vous dire, faites des choses folles, prenez des billets d'avion pour aller en Australie et ensuite vous verrez. Non. Je suis en train de vous dire, Dieu est plus puissant que tout ce que vous voyez dans vos vies. Et il ne vous invite pas à la folie, il vous invite à le suivre. Et si vous le suivez dans tous les domaines de votre vie, il vous sera fidèle. Tout comme il va être fidèle à Moïse et à son peuple. D'abord, Moïse va venir et va avoir des signes pour le peuple d'Israël. Il va arriver, il va dire, je suis là pour vous délivrer. Il va leur montrer un ou deux signes. Il a un bâton qui se transforme en serpent, la main qu'il met dans son côté et qui devient en lèpre, il la remet et ça devient, ce n'est plus de la lèpre. Et avec ces signes-là, il arrive, il a le nom de Dieu, il a les paroles de Dieu pour son peuple. Avec ces signes, il convainc le peuple hébreu. Ça marche bien. Avec Aaron qui convainc tout le monde, c'est bon. Les Hébreux sont d'accord, ils partent voir Pharaon. Mais Dieu a dit quelque chose à Moïse. Il lui a dit, Moïse, je dois te mettre en garde. Ne sois pas surpris que Pharaon mette du temps à vous lâcher. Je vais endurcir son cœur. Et nous, quand on lit ce texte, et ça fait partie des textes que je vous invite à lire pendant cette semaine et la semaine prochaine, enfin, fait partie des 4 chapitres par jour. Qui parmi vous a lu le début d'Exode cette semaine? Qui a pu lire le début d'Exode pendant cette semaine, avec les chapitres qu'on a toutes les semaines? D'accord. Bon, ceux qui ont pu, je vous encourage à continuer. Ceux qui n'ont pas pu, continuez à lire au moins, par exemple, le livre d'Exode pour comprendre un peu mieux ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce que l'on voit, c'est que Dieu va expliquer à Moïse, Pharaon ne va pas d'abord te lâcher. On pourrait se dire, pourquoi ? Le but de Dieu, c'est de délivrer le peuple d'Israël. Donc pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas tout de suite ? Pourquoi il va y avoir besoin des 10 plaies, toutes ces bêtes qui vont être tuées, les pauvres bêtes, elles n'ont rien fait de mal. Tous ces moustiques qui vont être massacrés, les moustiques, personne ne va les pleurer en général, et etc. Grenouilles pas trop non plus. Et les champs détruits. Pourquoi tous ces enfants qui vont mourir ? Ce qui est en jeu, c'est la liberté spirituelle d'un peuple. La liberté spirituelle d'un peuple. Nous pouvons être des chrétiens qui venons à l'église, qui disons, je crois que Dieu est Seigneur, mais dans nos vies, il y a des choses, on dit, si ça ne marche pas comme je veux, alors Dieu n'est pas Dieu. Si ces choses-là, ça ne change pas, alors ça ne va pas. On donne un pouvoir quasi divin à des choses qui ne sont pas Dieu. On donne un pouvoir quasi divin à des gens qui nous ont fait du mal, en disant, si ces gens ne changent pas, moi je ne changerai pas. On devient leur esclave. On dit, si je n'ai pas tant d'argent, si telle chose dans ma famille ne se passe pas, alors on fait des dieux de ces choses ou de ces personnes. On devient idolâtre. Et quand on est idolâtre, ce n'est pas Dieu qui est le premier dans nos vies, ce n'est pas notre prochain. C'est nous, notre amertume, notre orgueil et les personnes à qui on donne ce pouvoir fou. C'est une des raisons pour lesquelles je suis frappé par l'enseignement de Jésus sur le pardon. Quand on ne pardonne pas, on donne un pouvoir immense à une personne. On dit « je ne pardonne pas » et tant que cette personne n'a pas été punie, écrasée ou quoi que ce soit, je tiens. On lui donne une importance incroyable. On en fait un semi-dieu dans notre vie qui va avoir un impact dans notre vie sur tous les domaines progressivement. Ça va se répandre comme une lèpre on ne voudra pas le voir, on va essayer de le cacher, on va dire non, ça n'a pas une importance. Et on va en mourir de ça. Et Jésus nous le dit, parce qu'il veut notre bien. Eh bien, je vous dirais que ne pas pardonner, c'est une approche d'idolâtre, de mettre un autre Dieu que Dieu. Et dans ce processus, Dieu est en train de montrer à Israël tous ces dieux en lesquels ils ont mis confiance, parce qu'ils sont devenus idolâtres progressivement. Ils ont fait confiance au dieu Nil, au dieu Hapi, qui était censé les rendre heureux. Si vous voulez vous rappeler du dieu Nil, en anglais, to be happy, avec le dieu Nil. C'est le dieu Hapi, H-A-P-I. Et ça va être la première plaie que Dieu va montrer. Il veut montrer progressivement, et on peut se dire, mais de quel droit Dieu endurcit le cœur de Pharaon ? De quel droit est-ce que Dieu peut laisser quelqu'un devenir dur ? Ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre, c'est que Dieu est le créateur de l'univers. Donc tout ce qui se passe, il l'a voulu. Mais en même temps, c'est le Dieu qui veut la repentance, la conversion. Il veut aussi la conversion de Pharaon, et il va laisser à Pharaon une fenêtre. Mais il va permettre à Pharaon de s'endurcir, et il va utiliser cela pour révéler des enseignements fondamentaux pour son peuple, qui va les mettre par écrit pour s'en rappeler de toute génération, que Dieu est capable d'être victorieux sur toutes les idoles considérées les plus puissantes. Alors il va les attaquer une après l'autre, ces idoles. D'abord, il va parler au Pharaon avec ses prêtres et ses magiciens. Qu'est-ce que va faire Pharaon, Aaron et Moïse, comme premier signe ? Voilà, ça ne sera pas l'une des plaies, mais c'est le premier signe. Ils vont jeter leur bâton, il devient serpent. Qu'est-ce que vont faire les magiciens de l'autre côté ? Ils font pareil, donc ils sont aussi puissants. Ils sont en train de dire à Pharaon, « Ouais, d'accord, ces trucs, tu sais, nous, on peut faire pareil. » Un petit détail. Est-ce qu'ils sont aussi puissants ? Qu'est-ce qui va se passer entre les différents serpents ? Serpent d'Aaron va manger les autres. Alors, en hébreu, ce serpent, c'est le mot tannine qui est utilisé. Le mot tannine, des fois, il est utilisé pour serpent, des fois pour crocodile. Soyez ouverts, les images que vous recevez sont des traductions imparfaites. Et peut-être que c'était un crocodile qui a gobé des serpents ou d'autres crocodiles, on ne sait pas. Ce qu'il faut savoir, c'est que les crocodiles se mangent entre eux. Sachez que les crocodiles sont crocodilovores, si vous voulez. J'avais été à une ferme de crocodiles en Zambie, et ils avaient un crocodile blanc qui était féroce, et ils disaient, celui-là, on ne le met pas avec les autres parce qu'il mange les autres. On avait vu un autre crocodile, il avait le bout du bec mangé, on a même des photos où il y a la moitié de la mâchoire supérieure qui est mangée, il s'est fait manger par quelqu'un d'autre dans un combat. Les crocodiles se mangent entre eux. Et peut-être que c'était un combat de crocodiles. Donc vous comprenez d'autant mieux pourquoi quelqu'un comme Moïse, s'il voit son bâton se transformer en crocodile, il peut avoir peur. Peut-être crocodile, peut-être serpent, ce n'est pas le point le plus important. Le plus important, c'est que celui de Aaron ou de Moïse a gagné. Presque égal, mais gagnant. Ensuite, vous allez avoir la première... Pharaon va entendre, il va y avoir... On ne sait pas trop si Moïse a montré que sa main pouvait devenir lèpre. Ce que l'on sait, c'est que Pharaon lui dit « Ah tiens, le peuple d'Israël veut partir. Tu me fais des miracles, soi-disant que mes magiciens sont capables de faire. Si vous voulez vous balader, faire des vacances, peut-être que vous réfléchissez trop. Si vous réfléchissez trop, c'est que vous n'avez pas assez de travail. On va vous aider à chasser ces mauvaises idées. » Il va dire au chef de travail, arrêtez de donner la paille pour faire les briques, dites-leur d'affaires sans paille. Et on voit que des fois, au temps des Égyptiens, on faisait des briques sans paille, mais ça tenait moins bien. Ou bien s'il fallait chercher la paille, ça prenait plus de temps. Ce qui veut dire que l'esclavage du peuple hébreu va devenir encore plus dur. Et le but de Pharaon, c'est de casser l'autorité de Moïse. Le but de Pharaon, c'est d'asservir encore plus, de montrer au peuple d'Égypte que c'est lui Dieu sur la terre d'Égypte. Parce que pour les Égyptiens, Pharaon est Dieu, représentant de Ra, le dieu soleil sur terre. Et là, il est en train de montrer que Pharaon, c'est lui le vrai Dieu, parce qu'il peut donner tous les commandements qu'il veut, et ses commandements sont puissants sur cette terre. Le peuple d'Égypte est pas content, le peuple hébreu est pas content, commence à grommeler contre Moïse, ça va être une habitude. Ils vont râler tout le temps contre Moïse quand ils sont pas contents. Hein. Ça, vous allez le revoir 20 fois. Et imaginez combien des fois nous on râle avec Dieu alors qu'il a été fidèle, qu'il nous a montré son amour, et après on râle. Et après, le peuple d'Israël peut être un enseignement pour vous de vous rappeler, ok, est-ce qu'on a appris l'enseignement ? Après cela, Dieu va dire, Moïse, je vais commencer mes démonstrations de puissance. La première, c'est le Nil. C'est quel Dieu déjà, le Nil ? Le Dieu Happy. Eh bien, il va transformer le Nil en sang. Happy Nil. Il va toucher avec son bâton le Nil. Et le Nil, ce fleuve considéré comme un dieu, va devenir du sang. Alors, les magiciens, pour l'instant, ils arrivent à faire un peu l'équivalent. Ils touchent, ils font du sang aussi. Ce qui est très rigolo, très ironique, c'est que finalement, Pharaon, est-ce qu'à votre avis, il a envie que tout le Nil devienne du sang ? Qu'est-ce qu'il aurait aimé, lui ? Que ces magiciens, ils fassent quoi ? Qu'ils annulent ! Ils touchent et puis le Nil redevient comme avant. C'est parce que les magiciens, leur pouvoir, ils arrivent à concurrencer Moïse quasiment. Ils arrivent à faire des serpents moins puissants que les serpents de Moïse. Ils arrivent à faire du sang, mais quand même, c'est moins. On voit qu'ils n'arrivent pas à contrer. Ils arrivent juste à imiter au mieux. Ils continuent. Ensuite, deuxième signe, ça va être les grenouilles qui vont entrer partout. Même dans la chambre de Pharaon, tout ça. Qu'est-ce que vont faire les magiciens ? La même chose. Est-ce qu'à votre avis, Pharaon, il est content de ses magiciens ? Il a commencé à se dire, d'accord, ils savent faire comme Moïse, donc au moins, je me dis, il y a une forme d'équivalence, mais ils ne sont pas si puissants, mes magiciens. J'aimerais bien qu'ils me débarrassent de ça. Donc, c'est la première fois que Pharaon va dire à Moïse, « Ok, s'il te plaît, enlève ces grenouilles. » Et là, Moïse va lui montrer qu'il a le pouvoir d'enlever les grenouilles quand il veut, comme il veut. Il dit, « Ok, tu me le demandes, je vais les enlever à ce moment-là, de cette façon. » Et c'est à la parole de Moïse que les grenouilles vont s'en aller. Vont mourir, vont pourrir, ça va faire du bruit. Ça va faire des odeurs très désagréables. Ensuite, vous allez avoir la plaie suivante. Après les grenouilles, ça va être les moustiques. Alors là, les moustiques, on va nous dire que les magiciens n'arrivent pas à refaire des moustiques. Ils arrivaient à faire du sang, des grenouilles, des serpents. Les moustiques, ils ne devaient pas avoir des dieux moustiques, peut-être. En tout cas, ils n'arrivent pas à faire des moustiques. Et là, les magiciens de Pharaon commencent à dire, « Ouh là là, lui, il arrive à chasser les grenouilles, nous, on n'y arrivait pas. » Il fait venir des moustiques. Ils disent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » C'est le doigt de Dieu. De quel Dieu ? C'est le doigt de leur Dieu qui est en train de montrer qu'il est puissant ici. On pensait que les dieux étaient limités à des territoires. Donc les Égyptiens croyaient, on connaît tous les dieux, on a couvert toutes nos bases, on connaît tous les dieux importants, il est en train de nous montrer un dieu qui est capable d'avoir un pouvoir plus puissant que nos dieux sur notre terrain. Il est en train de faire une victoire sur le terrain adverse. Déjà, on voit que les magiciens, ils sont plus capables tellement de concurrencer. Ensuite, il y aura les mouches venimeuses, qui vont être des mouches qui... C'est les poux. Alors, moustique, c'est traduit des fois poux. On ne sait pas très bien la traduction. Des fois, c'est vermine, des fois, c'est poux, des fois, c'est moustique, c'est la même chose. Ça va être cette plaie-là. Après, il y aura ce qu'on appelle des mouches venimeuses. C'est des mouches à bœufs, des mouches qui piquent. Vous avez connu seulement si vous avez été près de vaches ou de bœufs. C'est des mouches pas agréables. Ça doit être comme l'étang. Voilà, en France, on a l'étang. Après cela, il va y avoir une plaie sur le bétail. Le bétail va commencer à mourir. Le bétail, c'est deux dieux. C'est le dieu Apis, le dieu des bœufs ou des taureaux, et le dieu Isis, le dieu des vaches. Aïe, 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 c'est deux grands dieux. Là, ceux-là, normalement, ils savent protéger... les troupeaux en terre d'Égypte, très bien. Rien du tout. Quand Moïse dit qu'ils vont mourir, ils meurent. La puissance du Dieu de Moïse est en train de démontrer qu'elle est supérieure à la puissance de tous ces dieux. Et juste après, il y a un détail qui est très intéressant. Pour l'instant, les magiciens au début faisaient pareil que Moïse. Ensuite, n'arrivent pas à dire que c'est pareil, ils lui disent « Oulala, celui qui est derrière ce gars-là, il est plus grand que celui qui est derrière nous. Fais attention, Pharaon. » Cette fois-ci, quand il va y avoir les ulcères, ça sera la plaie numéro 6. Les magiciens n'arriveront même pas à venir devant Pharaon. Pourquoi ? Ils vont souffrir de ces ulcères, de ces plaies sur leur corps, ils ne vont même pas venir à côté de Pharaon. Donc le texte nous dit, les dégâts sont tels maintenant, des plaies sur l'Égypte, que même les magiciens considérés les plus puissants derrière Pharaon, des sortes de prêtres si vous voulez, ils n'arrivent même plus à venir devant. Et Pharaon continue à s'endurcir. Dieu continue à montrer sa puissance sur le ciel. Juste après, il va y avoir une grêle incroyable, avec des grêlons qui vont détruire tout. On va dire, emmène ton bétail à l'intérieur. Et là, Moïse dit, emmenez ceux qui croient à ce que je vous dis, emmenez le bétail à l'intérieur, parce que sinon il va être détruit. Et certains vont avoir le bon sens de commencer à écouter ce que Moïse dit, parce qu'ils se rendent compte qu'il va être détruit. Et on a vécu des grandes chutes de grêle. Par exemple, un auteur de commentaires bibliques qui venait d'Australie a dit que, par exemple, en novembre 1969, près de Sydney, il y a eu de la grêle qui est tombée avec des balles de plus de 3 cm ou 4 cm de diamètre. Imaginez des balles de golf qui tombent à plus de 100 km/h, 200 km/h sur vous, qui tombent du ciel. Ça a cabossé les voitures, détruit les pare-brises, détruit beaucoup de choses. Et vous avez une grêle de ce type-là qui a dû tomber en Égypte. Est-ce que c'était un phénomène qui a été un phénomène climatique ou bien un miracle où tout d'un coup Dieu a envoyé de la grêle sortie de nulle part ? Vous savez quoi ? Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que c'est à la parole de Dieu que c'est tombé. Que Dieu ait fait venir un nuage qui envoie de la grêle, qu'il l'ait envoyé à partir de nulle part, ça n'est d'aucune importance pour un croyant. Ce qui est important, c'est que Dieu dit, et ça se fait. C'est pas Dieu qui observe, il y a la grêle qui tombe, puis juste après il dit, c'était moi qui l'ai envoyé pour vous punir. Comme Al-Qaïda qui attend qu'il y ait des problèmes, et puis une fois que Kadhafi sera renversé en Libye, ils vont dire, c'est nous qui avons aidé. Vous connaissez des gens comme ça ? Non, non, ça ne marche pas. Soit on dit à l'avance, ouais. Et là on peut croire, soit si on dit après, c'est trop facile. C'est facile, c'est très facile. Alors, je dirais là, à chaque fois, Moïse dit avant, il dit, il va y avoir la grêle qui tombe, à tel moment. Et elle va s'arrêter de telle façon. Et à travers la grêle, on voit que la domination sur le ciel n'est plus au dieu égyptien, mais au dieu d'Israël. Ensuite, il va y avoir la neuvième plaie, on va voir la huitième plaie, pardon, les sauterelles, qui vont venir couvrir toute la terre. Alors, il y a eu des cas, le cas de, par exemple, l'Australie, en novembre 1969, il y avait eu une grêle monstrueuse. Peu de temps après, dans le même mois, il y a eu des sauterelles qui ont recouvert tout le pays. Tout partout a été recouvert d'une infestation de sauterelles qui ont tout mangé. Les récoltes, les arbres, tout a été détruit. Peut-être qu'il y a eu un phénomène naturel qui s'est passé. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, ça a été selon la parole de Dieu. C'est Dieu qui a prédit et cela s'est fait. Ensuite, il va y avoir un phénomène encore plus surprenant. Pharaon, c'est le représentant de quel dieu déjà ?
Soleil.
Le dieu soleil. Qu'est-ce qu'il va faire Dieu ?
Les ténèbres.
Il va faire des ténèbres. Il va lui dire, ah bon, ton dieu c'est le dieu soleil. En pleine journée, je vais faire combien de temps de ténèbres ?
3 jours.
Alors je suis plus... Pour le coup, tu me mets un doute. Je crois que c'est 3 jours.
3 jours.
Vous connaissez dans le Nouveau Testament des trucs où il y a eu 3 jours de ténèbres ? Christ qui est mort pour 3 jours. Jonas qui a été 3 jours dans le ventre de la baleine. On retrouve un peu ce symbole qui a été où finalement la ténèbre domine pendant 3 jours. Dieu qui est le Dieu de lumière qui normalement veut se révéler à travers des manifestations de lumière. Dans certaines situations, va se révéler pour montrer que le Dieu soleil n'est pas puissant à travers de la ténèbre. Surprenamment. Et là, Pharaon commence à comprendre « Tous mes dieux, tous mes pouvoirs sont impuissants face à ce Dieu des Hébreux. » Il y est presque pour laisser passer le peuple d'Israël. Mais encore une chose. Pharaon a tué tous les enfants d'Israël. Il a tué pendant des dizaines d'années tous les fils. Et il prétend être vraiment souverain sur la vie et la mort de ce peuple. Est-ce que Pharaon a eu des chances de se repentir ? Oui. Est-ce qu'il les a sélectionnés ? Non. Et arrive la dernière plaie que Moïse, à qui Dieu avait dit à Moïse. Moïse lui avait dit, t'inquiète pas, il y en aura plusieurs, mais à la fin, ça sera la plaie des premiers-nés. Ça sera à ce moment-là que préparez-vous à partir. Et quand Moïse va dire, si tu ne nous laisses pas partir, tous les premiers-nés d'Égypte vont mourir. Tous les fils premiers-nés d'Égypte, les fils aînés vont mourir. Et quand il lui dit ça, Pharaon ne veut pas. Mais Moïse sait que là, Dieu va libérer son peuple. Donc il prépare tout le monde et il prépare tout le monde à célébrer la Pâque. La Pâque, en hébreu, c'est Pessah. Ça veut dire passer au-dessus. Parce qu'il va dire, l'ange de la mort, un ange destructeur, va passer sur tout le territoire d'Égypte. Mais sur vos maisons, vous allez sacrifier un agneau et vous allez mettre sur les portes les linteaux, sur les trois côtés, sur tout le pourtour de la porte, du sang, pour montrer que vous êtes du côté de Dieu, que vous avez sacrifié cet agneau, que vous avez finalement reconnu qu'il est votre Seigneur, et que vous vous mettez sous sa protection et non pas sous la protection des autres dieux. Et bien sûr, il y avait les dieux de la vie et de la mort, etc. Dieu de la mort, et là, Dieu démontre sa puissance absolue sur la vie et la mort. Dernier lieu où les dieux égyptiens avaient, semble-t-il, encore un pouvoir, car Pharaon avait pu tuer les gens d'Israël. Et là, Dieu va montrer, non, c'est moi qui ai pouvoir de vie ou de mort. De vie, de protéger la vie des enfants israélites, de mort, de tuer les premiers-nés d'Égypte, qui, eux, ne se sont pas soumis à moi. Et cette Pâque est au cœur de l'Ancien Testament. Cette Pâque, ce sera cette soirée où le peuple d'Israël célèbre la délivrance que Dieu va offrir. Est-ce qu'ils ont déjà été délivrés quand ils célèbrent la Pâque ?
Non.
Est-ce qu'ils sont déjà sûrs que Dieu va le faire ?
Non.
Ils ont l'espérance
et la foi. Ils ont l'espérance et la foi. Quand nous allons célébrer la Sainte Cène, est-ce que nous avons l'assurance que nous allons vivre éternellement avec Jésus ?
Non.
Si c'est par le regard humain, non. Par la foi, est-ce que nous en avons l'assurance ? À 100%, mais par la foi. Ce n'est pas une démonstration mathématique, c'est par notre fidélité à Dieu que nous avons cette assurance. Et bien c'est pareil dans la Pâque. Le peuple juif doit faire confiance que Dieu va les libérer.
Un petit détail, c'est bien la première Pâque à ce moment-là ?
La première Pâque, la Pâque en Égypte. Ensuite, il y aura la Pâque au désert, au Mont Sinaï, un an après, juste après le don de la loi. Ils célèbrent cette Pâque, et Dieu prépare sa victoire. L'ange de la mort va passer sur toute l'Égypte. Les maisons juives sont protégées. Dieu protège et va dire, vous allez célébrer ensuite cette nuit en vous rappelant que tous vos premiers-nés, Dieu les protège. Dieu protège tout le monde. Mais c'est une façon de rappeler au peuple d'Israël que c'est Dieu qui est premier. Qu'est-ce qu'on faisait avec les premiers-nés en ce temps-là ? Non. Les premiers-nés garçons, dans beaucoup de parties du Moyen-Orient, il y avait un dieu qui s'appelait Molech. Eh bien, pour être sûr de la protection du dieu Molech dans la guerre, on devait sacrifier le premier-né, pas en Égypte, mais dans tout le bassin méditerranéen, dans toute la Mésopotamie, on avait ce dieu qui s'était répandu, entre autres au pays d'Israël. On sacrifiait le premier-né en le tuant pour de bon au dieu Molech. Dieu n'a jamais permis ça. Il n'a jamais permis qu'on tue un premier-né. Il a permis un seul sacrifice d'un premier-né. Est-ce que vous savez qui c'est ? Le seul premier-né qui aura été sacrifié. Est-ce qu'il est mort ?
Non.
Dieu ne l'a pas permis. C'était juste pour tester la foi d'Abraham Jamais il n'a eu l'intention de le tuer. Jésus, le fils aîné de Dieu. Quelque part, nous sommes ses frères à Jésus, donc nous sommes enfants de Dieu aujourd'hui. Mais c'est Jésus notre grand frère, le premier-né. Et c'est seulement par sa volonté à Jésus qu'il s'est donné à nous. Non pas sacrifié par violence, mais par amour. Et là, les premiers-nés d'Israël ne seront pas sacrifiés, mais on demandera un sacrifice d'un animal pour se rappeler du don de la vie. Se rappeler que c'est Dieu qui donne la vie à chacun, et en particulier au garçon premier-né qui était considéré comme important. Juste quand l'ange de la mort passe, les Égyptiens vont tous dire à Pharaon, chasse-les. Mais les Hébreux, loin de nous, on ne veut plus de ce peuple qui nous cause notre mort. Ils se rendent compte que finalement, c'est leur mort qui est en train de se passer. Destruction de leur terrain, de leur bétail, de leurs propres enfants. Et Pharaon va les chasser. Ils vont partir, et Dieu sait déjà que Pharaon va changer d'idée après. Donc au lieu de les amener par le terrain facile, parce qu'il sait aussi plusieurs choses, Dieu sait que son peuple est encore très faible, habitué à l'esclavage physique et spirituel. Comme il est habitué à l'esclavage physique, quand il voit quelqu'un qui est fort face à lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il se soumet, il ne se bat pas. Et Dieu dit, je veux que ce peuple apprenne à se battre, physiquement et spirituellement. Et donc, il va les amener par un terrain plus difficile. Il va les amener près de la mer Rouge. Et ensuite, quand Pharaon va changer d'idée et qu'il va les poursuivre, ils vont être terrorisés. Mais là, Dieu va leur montrer une chose. Il va leur dire, vous avez l'armée la plus puissante au monde, l'armée d'Égypte. Moi, je vais me battre pour vous. Je vais vous montrer que je suis capable d'anéantir les forces les plus puissantes du monde de l'époque, avec les chars qui étaient considérés comme des tanks à l'époque. Avec un char, vous aviez un qui tenait les rênes, vous aviez souvent des lames sur le côté des roues pour faucher les gens. Donc, quand un char passait dans une foule, concrètement, c'était une lignée de gens massacrés avec des archers dessus ou des gens avec des masques qui allaient taper. Chez les Hittites, ils avaient deux guerriers, un avec une épée, avec une masse qui allait taper. Des fois, c'était des archers. Un char, ça faisait des massacres. Ça faisait des massacres. Avec un char, ils pouvaient tuer 100 000 personnes. Parce que imaginez des gens sans armes. Tous les chars d'Égypte sont en train de venir derrière Israël. Peut-être qu'ils sont des centaines de milliers. Pas un problème avec les chars, on peut tous les massacrer. C'est le tank de l'époque. Dans la Deuxième Guerre mondiale, quand vous aviez un tank, qu'est-ce que vous pouviez faire ? Il était protégé, les gens avaient des armures, avaient des protections, des boucliers, et ils pouvaient détruire tout sur leur passage. Mais dans cette destruction potentielle, Dieu va parler à son peuple et va leur dire, « Je vais vous montrer ma puissance ultime face à celui qui se dit Dieu, face à celui qui a l'armée la plus puissante, face à la guerre. » Dieu va ouvrir une voie dans la mer, son peuple va marcher au milieu et Dieu va détruire l'armée de Pharaon. Est-ce que Pharaon est mort avec eux ? On n'en sait rien. Ce n'est pas le point important. On n'en a aucune idée. Ça n'a pas laissé de traces historiques. En tout cas, ils ne sont pas devenus monothéistes et adorateurs du Dieu d'Israël après. Ce qu'on sait, c'est que l'armée de Pharaon a été détruite. Et qu'en dehors, quand ils sont passés sur l'autre côté, il n'y avait plus que les Hébreux. La mer entre eux et le Pharaon, qui n'avait plus d'armée.
Mais il y a des chrétiens en Égypte.
Ça a été plus tard. D'abord, tout le monde est parti du peuple juif. Et de ce peuple, les gens ont appris que Dieu était tout puissant, qu'il pouvait être victorieux sur tout. Certains parmi nous diront, c'est facile. Eux ont eu ces victoires. Nous, on aimerait aussi ces 10 plaies d'Égypte pour montrer que Dieu est puissant sur les politiciens véreux, sur les gens dans l'administration qui font du mal, sur les chefs d'entreprise qui font du mal, sur les gens dans la rue qui tuent et qui pillent, sur les voleurs, sur les menteurs. Rappelez-vous que Dieu a montré une fois pour toutes au peuple d'Israël, il n'y a pas eu les 10 plaies tous les ans. Ça a été noté pour que le peuple se rappelle. Se rappeler est un élément fondamental de la foi. Cette histoire, c'est l'histoire de votre peuple. En acceptant Jésus, vous devenez partie du peuple d'Israël. Vous devenez spirituellement juif, comme Paul dira en Romains chapitre 2. Et on est appelé à découvrir que Dieu a montré une fois pour toutes sa puissance. Et cette puissance absolue, c'est non seulement sur des gouvernements idolâtres, Jésus va la démontrer encore plus, de manière plus flagrante, cette puissance, à travers quel signe ? La résurrection. Il va ressusciter. Il va montrer qu'il est vainqueur de la mort. L'armée de ténèbres qui essaye de détruire Jésus va arriver sur lui avec ses chars, avec ses mensonges, avec ses destructions. Et lui, en 3 jours, va passer de la mort à la vie et va montrer qu'il est victorieux de la mort. Jésus est victorieux de la mort. Et à travers cette victoire, nous sommes invités à mettre notre espoir en Jésus. Est-ce que vous êtes prêts à croire dans le Dieu qui s'appelle « Je serai qui je serai » ? Est-ce que vous êtes prêts à mettre votre confiance dans ce Dieu qui invite à la foi ? Ou est-ce que vous voulez attendre patiemment, ne rien faire et dire à Dieu « Fais tout ton travail et après je croirai en toi ». Est-ce que vous êtes prêts à mettre tout votre cœur, comme Moïse l'a fait, et le peuple d'Israël, et les chrétiens jusqu'à aujourd'hui, dans le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ, en disant « Ok, tu as eu ces victoires dans le passé, j'en ai vu autour de moi aussi des gens qui ont été guéris par ta puissance, j'ai vu des démonstrations de puissance, j'en ai entendu parler, j'ai lu, je te fais confiance. » Je veux vivre cette victoire dans ma vie. Je veux vivre cette délivrance de la mort. Je veux vivre cette liberté de t'appartenir plus qu'à tout être humain. Est-ce que vous êtes prêts à vivre cette victoire ? Et j'aimerais vous demander, dans quel domaine de votre vie est-ce que Dieu veut montrer cette victoire ? Dans quel domaine de votre vie vous avez dit « je ne suis pas prêt à marcher encore » ? Est-ce qu'il y a des endroits où, quand on vous dit « ça serait bien que tu changes », vous dites « oui, mais ». Est-ce qu'il y a des domaines où vous pouvez dire « je suis encore un ver » où il y a quelques pourcents de poison ? Ou est-ce que je suis en marche avec le Dieu d'Israël et je suis à 100% avec lui, à sa suite ? C'est une question qui est une question pour toute notre vie. Est-ce qu'il y a des domaines de notre vie où on se rend compte que Dieu n'a pas encore une prise complète ? Je vous invite à lâcher prise. Vous voulez la puissance de Dieu dans votre vie ? Je la veux aussi. Vous voulez la puissance de Dieu à travers notre Église, à travers son Église ? Je la veux aussi. Plus nous lâcherons pour Dieu, plus nous suivrons avec Dieu, comme Moïse, Aaron, le peuple d'Israël, les chrétiens de tout temps qui ont lâché tout pour être avec Dieu, pour être fidèles à Dieu et faire la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Plus nous allons voir la lumière de Dieu briller dans nos vies, voir les pharaons de nos vies être mis à mal, être soumis à la volonté de Dieu, pour la plus grande gloire de Dieu. Quels sont vos dieux ? Quel est votre Dieu ? Prions ensemble. Seigneur, tu savais que l'esclavage de ton peuple en Égypte n'était pas seulement physique, mais il était spirituel. Ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas se battre, ils croyaient qu'ils ne pouvaient pas vaincre l'armée du Pharaon, ils croyaient que tous les dieux de l'Égypte étaient plus puissants qu'eux. Ils avaient vécu cette croyance pendant des siècles. Et toi, en quelques mois, tu as montré que tu étais victorieux de tous ces dieux, victorieux de l'armée la plus puissante de l'époque, l'armée de Pharaon. Tu as montré que tu étais victoire sur la vie et la mort. Tout comme tu la montres, cette victoire encore plus clairement à travers Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons voir cette victoire. Montre-nous, guide-nous, pour que nous puissions marcher dans ce chemin, qui est le chemin auquel tu invitais le peuple hébreu, pour passer par le désert, où on ne s'appuie plus sur les idoles, pour entrer en terre promise, cette marche par la foi dans laquelle nous voyons ta main agir dans nos vies et ta volonté se réaliser. Bénis chacun de mes frères et sœurs ici pendant cette minute ou deux de méditation, qu'ils puissent être conscients, non pas des dieux des autres, mais de savoir s'il y a un dieu ou une puissance à laquelle ils donnent plus d'importance qu'à toi, à qui ils disent « Je ne lâcherai pas ça, je ne veux pas le lâcher. » Et donc, qui te mettent à la place numéro 2 ou 3. Aide chacune de mes sœurs, chacun de mes frères, à voir afin qu'ils puissent être encouragés à te mettre en premier et découvrir la douceur de ton esprit, cette douce brise qui souffle et qui transforme. Merci Seigneur de nous montrer, de nous guider pendant ce temps et pendant cette semaine. Amen. Si certains d'entre vous perçoivent qu'il y a quelque chose qui a été mis à une place plus importante que le Seigneur, Jésus-Christ, que notre Père Céleste, que l'Esprit-Saint dans votre vie, et que par conséquent vous avez une idole qui empêche la lumière de Dieu de briller dans vos vies, et qui vous empêche d'atteindre toutes les bénédictions et les grâces de la présence de Dieu. Si c'est votre cas, je vous invite à prier avec moi maintenant, à répéter dans votre cœur ces paroles, ou à voix basse. Seigneur Jésus-Christ, je vois que tu n'es pas Seigneur dans ce domaine. Je vois que telle chose, et vous pouvez mentionner devant Dieu, a eu plus d'importance que toi jusqu'à maintenant. Seigneur, je renonce à cette idole. Je renonce à laisser cette chose régner dans ma vie. Et par la foi, je t'invite, Seigneur Jésus. Viens régner complètement. Viens mettre ta lumière dans toute ma vie. Afin que je ne sois plus un ver empoisonné pour les autres, mais que je sois un ver d'eau pure, l'eau de ton amour et de ta vérité. Que je puisse porter ta vie à beaucoup d'autres. En ton nom je prie, Seigneur Jésus. Amen.